Je m'appelle Opaline et j'appelle de Montrieux en Sologne, siège social de l'école d'agroécologie voyageuse, un programme de 8 mois pour les jeunes de 18 à 25 ans qui souhaitent apprendre l'agroécologie par l'expérience en voyageant dans les fermes tout en aidant les agriculteurs dans leurs projets. Si vous souhaitez parrainer un étudiant qui va devenir paysan en agroécologie, n'hésitez pas à aller voir le site lesagronomes, comme des hommes avec un H.com. Et ce serait super un jour de consacrer une petite émission de la Terre au Carré à ces futurs paysans et paysannes ambassadeurs et ambassadrices de l'agroécologie dans nos territoires. Merci pour tout ce que vous faites. Et puis, n'oubliez pas de serrer des arbres dans vos bras. À bientôt.
Oui, bonjour, ferme de Bretagne. J'appelle suite à un appel concernant la pollution en Bretagne. Je suis bien contente qu'il y ait des Bretons qui réagissent. Et en fait, ils se mettent aussi en danger, on le sait bien, en particulier certains journalistes. Je n'ai pas eu le temps de réagir par rapport à l'émission sur la vache. Moi, j'adore les vaches. Il y a un très, très beau film qui s'appelle « Les bovines ». Mais j'ai quand même constaté qu'il y a des personnes qui disent que les vaches sont... manipulés entre guillemets pour ne pas souffrir quand on leur enlève leur veau. Donc je suis restée un peu spontée, comme on dit chez nous, chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire. On sait très bien que les gens de l'INRAE de toute façon travaillent aussi pour les bienfaits entre guillemets de l'agriculture, mais dire des choses pareilles, franchement ça me désole. Merci de votre émission, j'adore. Au revoir, bon courage.
Bonjour, Gisèle de Cavalère. Je voulais vous remercier d'abord de remettre un petit peu de science et beaucoup moins de poubelles et d'ordures dans votre émission et vous dire que, au sujet du télescope, puisqu'on doit disparaître un jour, au moins savoir d'où on vient. Je vous remercie de votre émission. Au revoir.
Bonjour Mathieu, c'est Jeanne de Quatreville-sur-Sienne dans la Manche. Je voudrais suggérer aux chasseurs de lire le livre de l'homme chevreuil, 7 ans de vie sauvage, de Geoffroy Delorme aux éditions Les Arènes. C'est une réflexion qui leur permettra de comprendre ce que vivent les animaux avant qu'ils ne les tuent avec leurs fusils. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.
Bonjour, je m'appelle Daniel et j'habite en Normandie, près de Caen. J'ai 70 ans et je milite depuis plus de 50 ans pour notre nature et notre biodiversité. Et actuellement, au sein du bureau d'une association qui s'appelle la Convention Vie et Nature, présidée par le juge Gérard Charolois, et nous battons pour sauver ce qui reste de notre planète. Et je pense que les jeunes devraient plus s'investir, comme le font Greta, bien sûr. Voilà, donc nous ne sommes pas assez nombreux à nous battre au quotidien pour protéger notre planète. Les jeunes, c'est à vous, battez-vous.
Bonjour, Léo à Nantes. Je rebondis sur les réactions d'auditeurs face aux coûts de projets scientifiques et spatiaux comme le lancement du télescope James Webb. Je trouve ça fou que dans une société où les banques, la finance et l'industrie détruisent la planète, ce soit à la science qu'on demande d'abandonner ses projets pour réinvestir dans l'environnement. Bonne journée.
Bonjour, Julien de Luxembourg. Je voulais juste dire à la dame là qui a précisé qu'elle faisait la sieste pendant la Terre au Carré, qu'elle pouvait écouter les émissions en podcast sur le site France Inter ou sur l'application Radio France. Bravo à vous, à bientôt et joyeux Noël.
Le répondeur de la Terre au Carré, 01 56 40 45 45.
Nous sommes en 1945, à l'âge de 7 ans, le petit Jean-Michel est poussé par-dessus bord par son père explorateur, inventeur et visionnaire qui connaîtra une renommée internationale pour ses explorations du monde sous-marin. Nous sommes dans la famille Cousteau et comme les chiens ne font pas des chats, Jean-Michel passera sa vie à sillonner les eaux du globe, d'abord auprès de son père, à bord de la Calypso et de l'Alcyone, et ensuite en poursuivant ses plongées sous-marines. En 7 décennies, Jean-Michel Cousteau a été le témoin des changements majeurs au sein des océans. Il publie aujourd'hui un livre pour en parler aux éditions de l'Archipel et il est notre invité en duplex de Santa Barbara en Californie. Bonjour Jean-Michel Cousteau.
Bonjour, bonjour.
Merci.
Je suis très honoré de vous entendre.
On est très heureux en tout cas d'être avec vous. À nos côtés se trouve quelqu'un que vous connaissez bien et qui a été de très nombreuses années auprès de votre père sur la Calypso. C'est l'océanographe François Sarano. Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour Jean-Michel. Heureux de t'entendre.
On va se retrouver dans un instant pour échanger vos souvenirs, ceux que vous partagez sur les océans dans le monde entier, pour évoquer évidemment la figure du commandant Cousteau et pour parler de la dégradation de celui que votre père appelait bien sûr le monde du silence. L'émission étant enregistrée, on ne pourra pas recevoir vos messages comme d'habitude. 14h30 tout à l'heure, Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passera au vert.
Et veille de Noël, du coup, moi je vous parle du repas, enfin peut-être une partie pour certains d'entre vous. Les homards, la douleur des homards, la douleur des crustacés et des céphalopodes.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayessara et préparée par Chantal Le Montagnier avec Pierre-Yves de Rolin aujourd'hui à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
À 50 mètres de la surface, des hommes tournent un film. Munis de scaphandres autonomes à air comprimé, ils sont délivrés de la pesanteur. Ils évoluent librement. Pour faire ce film, ils ont promené leur caméra à travers Méditerranée, Mer Rouge, Océan Indien, Golfe Persique, à la découverte d'un monde étrange, presque inconnu, le monde du silence.
Sorti en 1956 de Jacques-Yves Cousteau et de Louis Malle, Palme d'Or à Cannes la même année, Oscar du meilleur film documentaire en 1957, et son fils Jean-Michel Cousteau avec nous, et François Sarano, invité de La Terre au Carré, pour cette discussion autour des océans et autour de vos souvenirs respectifs, évidemment, la figure du commandant Cousteau. Jean-Michel, vous publiez donc Sauvons nos océans, c'est aux éditions de l'Archipel, vous avez fondé Ocean Futures Society aux États-Unis, vous présidez actuellement l'ONG Green Cross France et Territoires, vous avez de votre côté réalisé plus de 80 films. Et puis François Sarano, vous avez créé l'association Longitude 181 qui fête ses 20 ans cette année. Vous avez été conseiller scientifique du commandant Cousteau et du réalisateur Jacques Perrin. Et vous avez publié Réconcilier les hommes avec la vie sauvage, entre autres, chez Actes Sud, dont la préface était signée Pierre Rabhi. Jean-Michel Cousteau, il y a cette photo dans votre livre où on vous voit avec votre père sur le pont arrière de l'Alcyone. Et vous dites que vous l'entendez encore se retourner vers vous et vous dire « C'est toi, Jean-Michel, qui reprendra le flambeau de ma foi ». Vous étiez donc l'héritier désigné.
Exactement. Et j'étais bien sûr très honoré d'entendre ça de mon père, mais j'avais pas du tout l'intention de changer quoi que ce soit. Et une fois qu'il nous a quittés, malheureusement trop tôt, j'ai créé Océan Futur. Et notre mission, c'est si vous protégez les océans, vous vous protégez vous-même. C'était ça, la mission, car le monde du silence n'est pas silence. Le silence n'est plus là. Il y a énormément de bruit, de problèmes, et il faut faire face à tout ça, car si on n'arrête pas d'avoir des solutions et de répondre à ces problèmes, eh bien, l'espèce humaine disparaîtra. Et la nature continuera sans notre présence. Mais il faut s'adapter à des changements, mais ça va marcher. Et je suis totalement convaincu qu'on va y arriver.
Jean-Michel Cousteau, alors il y a ce moment initiatique que vous décrivez. Vous avez 7 ans, votre frère 5 ans. Votre père, donc le commandant Cousteau, vous jette à l'eau. Est-ce que finalement, vous auriez pu faire autre chose que sillonner les océans toute votre vie ?
Absolument pas. Moi, ce qui s'est passé... Quand mon frère et moi, on a été dans l'eau avec l'appareil pour nous permettre de rester sous l'eau, on avait passé des années avant ça au bord de l'eau, en Méditerranée, où moi, j'allais le matin, j'allais pêcher des poulpes pour les vendre. Et mon meilleur client, c'était le chef de police. Je me faisais engueuler parce que j'arrivais en retard à l'école tous les matins. Mais... je n'ai jamais arrêté d'être associé et attaché à l'océan et de voir des changements qui sont inacceptables. Mmh. Et c'est comme ça, il y a quelques années, j'avais été dire au directeur à Sanary, le port de Sanary est tout à fait pollué, regardez, il y a des poissons morts qui sont là, et ils ont fait plein de changements pour permettre de nettoyer toutes les eaux qui vont là-bas.
François Sarano, comment vous avez rencontré, vous, le commandant Cousteau, et donc Jean-Michel Cousteau, par la même occasion ?
Par bonheur. Oui, c'était à l'occasion d'un recrutement sur le directeur adjoint de l'Aquarium de Monaco et Jacques, donc le père de Jean-Michel, Jacques-Yves Cousteau, m'a dit « Vous êtes trop jeune pour vous enterrer dans un musée, venez donc à bord de la Calypso. Oui. » Et je n'ai pas mesuré à ce moment-là la chance infinie que le commandant me proposait, et de te rencontrer, Jean-Michel, et surtout de prendre conscience. J'étais inconscient, j'étais un scientifique pur et dur, j'aimais décortiquer le monde, et je ne me rendais pas vraiment compte de ce que nous lui faisions. On était très détachés de ce monde. Et petit à petit, le terrain, la plongée, fait prendre conscience. Haïti, la première mission, tout d'un coup, on découvre qu'il y a des gens qui dépendent de l'environnement, qu'on ne peut pas vivre sans... hors d'un environnement cinq. Les deux sont liés, comme Jean-Michel le disait. Tout est lié. Nous dépendons les uns des autres et de l'eau. Et écosystème, c'est global.
Et donc, combien de temps vous avez passé ensemble?
Alors, 13 ans.
13 ans.
Jusqu'au dernier moment.
Jusqu'à la Calypso. Donc, la Calypso d'abord, oui. Et l'Alcyone ensuite. C'était alors, les deux
il
navires.
Il y a eu aussi de nombreuses expéditions qu'on appelait à terre, le fleuve jaune, et puis le Baïkal, le Danube. On a parcouru les pays qui étaient drainés par les artères de la mer, les fleuves. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça montre que tout est lié. Les fleuves sont les racines de la mer. Que l'eau, c'est toujours la même eau. Celle de notre corps, celle de la pluie, celle des nuages, celle de l'océan. Et que nous faisons partie de ce monde. Nous sommes parcelles d'océan, nous sommes parcelles d'eau.
Je voudrais que vous nous racontiez, François Sarano, ces plongées que vous avez faites avec des requins blancs sans cage.
Alors la première, c'était avec Jean-Michel.
C'est bien
justement,
pour ça que je vous pose la question.
En 2000, en Afrique du Sud, c'était quand même un peu extraordinaire. Ce requin blanc que tout le monde disait ne pas pouvoir être approché hors d'une cage, eh bien, avec André Hartmann, avec Yves Lefebvre, avec Jean-Marc Bourg, et Jean-Michel, donc, eh bien, nous l'avons rencontré sous l'eau, librement. Et ces plongées n'étaient pas si extraordinaires que ça, mais pourtant, elles brisaient un tabou. Elles ont ouvert la porte de la rencontre avec ces animaux fantastiques. Et après, j'ai eu l'occasion maintes et maintes fois de retourner plonger librement avec des grands requins blancs, encore une fois en Afrique du Sud en 2003, et puis plusieurs fois à Guadeloupe, et en particulier pour le tournage du film Océan, et des plongées extraordinaires à côté d'une femelle baptisée Lady Mystery, énorme, 5m50, 1,5 tonne, et on a nagé pendant quelques minutes, 2 minutes, épaule contre nageoire, à quelques centimètres. Mais à ce moment-là, la distance ne se mesure pas en centimètres. C'est une éternité de bonheur, de paix, de sérénité.
Pas une once d'appréhension.
Mais non, les plongeurs le savent. Le danger de la plongée, c'est les grottes, c'est de rester coincé dans un filet, dans une épave. Les animaux sauvages ne prennent aucun risque. Par conséquent, ils ont l'océan pour eux et dès qu'ils ont un doute, ils gardent la distance. La difficulté, c'est de trouver la distance juste avec eux pour pouvoir nager en paix à côté d'eux et vivre quelques instants à leur côté dans leur monde pour les connaître, vivre avec, créer des liens.
Jean-Michel Cousteau, justement, François Sarano nous disait, on a brisé un tabou en nageant libre aux côtés des requins blancs. Or, votre propre père, finalement, avait entretenu aussi dans ses films le mythe d'un animal dangereux, comme il le disait, hein, dans Le Monde du Silence, par exemple, que les requins étaient des ennemis quasiment pour l'homme.
Bah, à l'époque, on ne savait pas quels étaient leurs sens principaux. Et leur sens principal, c'est l'odorat. Si l'eau n'était pas claire, il y avait du sang dans l'eau, que ce soit un poisson ou une personne qui s'était abîmée, etc., eh bien, les requins, ils venaient manger. C'est comme ça qu'ils font avec la nature. Et notre sens principal, c'est la vision. Pour eux, c'est l'odorat. Donc, il faut quand même apprendre tout ça. Et aujourd'hui, on a appris énormément de choses. Et moi, quand l'eau n'est pas claire et qu'il y a du sang dans l'eau, je n'y vais pas. C'est aussi simple que ça. Mais ça me permet d'aller n'importe où et de savoir ce qu'il faut faire grâce à les expériences que nous avons eues tous. Et François est un parfait exemple pour nous expliquer sa vie et ce qu'il a fait et comment avoir le plaisir et le privilège d'être honoré par les océans dont nous dépendons tous. Moi, je suis français et les Français, il y en a beaucoup qui boivent du vin. J'aime beaucoup le vin. Eh ben, le vin, c'est de l'océan. Vous buvez de l'océan.
C'est vrai qu'on n'y pense pas comme ça, instinctivement, mais effectivement, c'est bon de nous le rappeler. Allez, on vous retrouve dans un instant. Jean-Michel Cousteau et François Sarano. On parle évidemment du commandant et puis très largement des océans et de leur dégradation. C'est la Terre au carré avec Jean-Louis Murat tout de suite et à l'amour.
Sur mon arbre perché, à l'amour, amoché comme jamais.
L'amour, c'était Jean-Louis Murat.
La Terre au carré sur France Inter.
Ces hommes, ce sont les plongeurs de la Calypso, le navire de recherche sous-marine du commandant Cousteau.
Une plongée de plus. Avec Philippe Taillé et Frédéric Dumas, nous en avons fait des milliers depuis 20 ans. Car il y a déjà 20 ans que notre curiosité nous a entraînés sous la mer. Dumas et moi, nous avons vécu des centaines et des centaines d'heures en plongée. Notre enthousiasme, notre joie sont restés neufs comme au premier jour. Nous les partageons maintenant avec nos camarades de la Calypso. Le travail prévu à cette station est terminé. Falco enlève son scaphandre, nous allons appareiller. La Calypso, avec ses 12 plongeurs, son équipage, son matériel, est un outil nouveau au service de la recherche marine. À chaque mission, nous embarquons des savants et des spécialistes de l'université, du muséum, des laboratoires. Nous mettons en commun nos efforts et nos techniques pour explorer les profondeurs de la mer.
Jean-Michel Cousteau, vous qui êtes en duplex de Santa Barbara en Californie pour nous parler entre autres de votre père. La Calypso, ça a été vraiment pour le public finalement l'autre star de ces aventures océaniques, hein, parce que le bateau était quasiment aussi connu que votre père.
Absolument, c'est un bateau tout à fait simple, mais qui marchait très très bien, qui était fait en bois dans l'Oregon et qui avait été mis à la disposition de mon père, car nous on a... Enfin, notre famille n'avait pas un rond. Mon père était dans la marine à Toulon. Et ce navire a été mis à la disposition de mon père. Et grâce à tous les volontaires et les gens qui ont aidé pour que la Calypso puisse marcher et partir en expédition, eh bien, ça a été une aventure absolument extraordinaire avec un navire qui a quand même nous a permis de faire le tour de, ouais, de la planète Océan plusieurs fois.
Ouais. Et alors, du coup, François Sarano, l'Alcyone a été moins connue, bon, évidemment parce que vous avez sillonné moins longtemps les océans avec, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout le même impact que la Calypso, hein.
Moins connu, c'est Jean-Michel qui devrait en parler, parce que Jean-Michel était tellement souvent à bord de l'Alcyone. Nous avons eu la chance avec Jean-Michel de faire une belle expédition au Cap Horn, au Malouine, et puis la belle île Beauchêne. On a exploré les eaux froides des 40e et 50e Hurlant, et c'était extraordinaire parce que ce bateau était, contrairement à la Calypso, très sec. Ouais. Et quand on est dans l'eau toute la journée, qu'il pleut beaucoup, beaucoup, on est content d'avoir un navire sec, ou ouais, se réchauffer un petit peu. Mais ce que je voudrais dire, la Calypso, moi, c'est que ce bateau, c'était bienvenu. On lui faisait confiance. Quand on rentrait dans un port et on était accueilli. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que ce bateau, on connaissait sa silhouette. Mais cette silhouette, elle était toujours bien reçue. On l'accueillait. Et ça changeait tout quand on arrivait dans un pays. Toutes les portes étaient ouvertes. Et on pouvait aller visiter les endroits les plus secrets.
Ouais. Jean-Michel Cousteau, vous racontez votre vie à bord de la Calypso. C'est quand même génial. Parce que vous étiez en pension en Normandie. Mais vous passiez quand même 3 mois de l'année à bord du bateau, pendant que vos parents vous sillonnaient, pareil, les mers du monde entier toute l'année. Hein. Donc c'était un moment que vous attendiez avec impatience.
Tous les ans, je passais entre 3 ou 4 mois à bord d'un Calypso, là où je pouvais aller la retrouver. Il faut quand même penser qu'à l'époque, dans les années 50 et les années 60, les communications n'avaient rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tous les avions disponibles pour nous amener là où il fallait. Les choses ont beaucoup, beaucoup changé. Mais c'était extraordinaire de faire partie de cette équipe et de voir et d'apprendre en étant en contact avec eux ce qu'ils avaient vécu pendant les semaines précédentes, qu'ils partageaient avec nous. Ça a été absolument merveilleux. Et moi, j'ai un respect très profond pour tous ces gens-là, car quand ils partaient sur la Calypso, ils n'avaient plus de contact avec leur famille ou très très peu. Ça a pris très longtemps, plusieurs années avant que ça puisse se faire. Et ça a été une période absolument fabuleuse. Et moi, j'ai des souvenirs avec Tom François, etc. Des endroits merveilleux que j'oublierai jamais. Et je suis en train de travailler en ce moment pour essayer de trouver les ressources nécessaires pour que j'aille faire une série de télévision sur mes 75 ans qui me permettrait d'aller à tous ces endroits où nous sommes allés avec la Calypso et Alcyone et voir l'état actuel aujourd'hui par rapport à ce qu'on avait avant. Et de manière à faire comprendre aux décideurs qu'on peut changer tout ça pour retourner à la qualité dont la nature a besoin et dont nous avons besoin.
Justement, Jean-Michel Cousteau, on dit souvent les souvenirs d'enfance sont liés à un jardin, à une maison. Vous, donc, vos souvenirs d'enfance sont liés à un bateau et à des lieux au milieu de l'océan.
Oui, mais ils sont liés à l'équipe de l'époque, ou les équipes de l'époque, que ce soit sur Alcyone ou sur Calypso. C'est des individus qui, pour moi, étaient comme des frères ou des parents, dans tous les cas, d'une manière ou d'une autre, et je n'oublierai jamais. Et je me souviens quand le commandant Taïez, qui a vécu plus longtemps que mon père et Dumas, m'a dit « Si tu veux, Jean-Michel, je peux aller plonger avec toi. » J'ai dit « Oui, j'aimerais beaucoup. » Et on est allé faire une plongée pour ses 81 ans. Et moi, j'étais absolument étonné, j'étais content comme tout. Et quand on sortait de l'eau, je lui ai dit, commandant, moi, mon rêve, c'est de revenir plonger avec vous à cet endroit, près de Bandol. Vous avez fait votre première plongée avec mon père, avec l'équipement, bien sûr, de revenir là pour célébrer vos 100 ans. Et je veux simplement vous dire que ça me serait un honneur pour moi. Il m'a regardé, il m'a dit, mais Jean-Michel, tu ne seras peut-être plus là. Et pour moi, ça a été de me recharger mes batteries pour toujours. Ouais.
Allez, nouvel extrait, Jean-Michel Cousteau, du Monde du silence en 56, avec l'histoire d'un bébé cachalot. Séquence qui probablement ne serait plus diffusée aujourd'hui sur les écrans.
Sous nos yeux, l'incident va tourner au drame. Un bébé cachalot, qui n'a que 6 mètres de long, se détache du groupe, imprudent comme tous les gosses. Il se retourne en jouant le long du bord, ça y est, il passe en plein sous la coque.
Allô, passerelle, le moteur bâbord a stoppé, qu'est-ce que je dois faire?
Relancez dès que possible! La pauvre bête a été lacérée par les pales d'hélice. Les entailles sont profondes. Nous sommes consternés. Il faut abréger ses souffrances. Nous le déhalons de l'avant à l'arrière, nous l'amarrons solidement par la queue, et Dumas l'achève d'une balle dans la tête.
François Sarano, inimaginable hein, de diffuser une telle scène aujourd'hui sur les écrans de télé.
Oui, mais je crois qu'il ne faut pas sortir un événement de son contexte historique, culturel, comme on ne sort pas une espèce de son écosystème, ça n'a aucun sens. À l'époque, il faut quand même se souvenir qu'on chassait 30 à 40 000 cachalots par an, et des milliers de baleines, sans que personne ne s'en offusque. Donc, c'est dans le contexte de l'époque. Bon, effectivement, moi qui, avec mes camarades nageant aujourd'hui avec des cachalots, et connaissons la douceur extrême de ces animaux, ça fait ouais. C'est terrible à entendre ça. Mais ne jugeons pas. On peut analyser, il faut le répéter, il faut le dire. Aujourd'hui, heureusement qu'on ne peut pas faire ça. Mais on ne peut pas juger l'histoire.
Ouais. Jean-Michel Cousteau, très rapidement, je crois que c'est France Télévisions qui avait voulu rediffuser justement Le Monde du silence en demandant des coupes hein, dans le documentaire, qui ont été refusées, je crois, hein, par vous ou par votre père.
Oui, absolument. Et il ne faut quand même pas oublier que aujourd'hui, on a appris énormément de choses et on est en mesure de ne plus faire les erreurs qu'on faisait dans le passé et d'apprendre et de protéger ce qui reste. Je peux vous dire que moi, je suis très profondément dans le coup de la création de zones protégées pour, par exemple, les mammifères marins, les baleines en particulier, et les dauphins, et en particulier celui qui est le plus grand et que je préfère, et qu'on a sauvé en le prenant au Mexique et en l'amenant là où il avait été capturé plusieurs années plus tard, en Islande. Et ça, c'est les orques et polars. Orques et polars sont les animaux les plus extraordinaires de la planète, avec des moyens de communication qui sont, bien sûr, du son, et qui leur permettent d'éviter une population avec une autre population, car leur langage est différent. C'est exactement comme l'espèce humaine.
On y reviendra avec vous dans quelques minutes, puisque vous êtes les invités aujourd'hui de la Terre au Carré. Jean-Michel Cousteau et François Sarano.
France Inter. La Terre au Carré.
Et c'est l'heure de Camille Passauvert.
Et il ne vous aura pas échappé que dans quelques heures, nous serons tous affalés sur un canapé en train de digérer nos repas scandaleusement gargantuesques de Noël, avant de finir quand même les restes, évidemment. Repas de fête dans lequel vous avez peut-être prévu du homard. Eh bien, sachez que nos amis des capotes seraient des êtres sensibles, comme leurs congénères crabes ou crevettes, mais aussi les poulpes et les seiches dans la catégorie céphalopode. Tous ressentiraient la douleur, d'après un rapport britannique qui se bat sur plus de 300 études et qui recommande d'inclure ces invertébrés dans le cadre des lois sur le bien-être animal, rapport coordonné par le professeur Jonathan Birch.
Quand on cherche des preuves que ces animaux sentent, ont des sensations, il n'y en a pas qu'une, il y en a de toutes sortes. Certains liés au cerveau, sa taille, sa complexité, ce dont il est capable, d'autres liés au comportement. Est-ce que l'animal réagit à une blessure ou une menace comme un animal sentient le ferait ?
Il parle d'animal sentient, hein, vous avez entendu. Oui, lui, spécialiste du sujet à la London School of Economics et qui en est un expert auprès de l'Union européenne. Et voilà ce que ça veut dire.
La sentience, ce n'est pas que la douleur. C'est pouvoir avoir n'importe quel genre de sensation, en y incluant d'autres négatifs comme l'anxiété ou des positifs comme la joie et le plaisir.
Résultat, les seiches, poulpes, écrevisses, crevettes, crabes ou homards réagissent. Et voici comment on le sait, avec cette fois la biologiste Laure Bonneau-Ponticelli, spécialiste des céphalopodes au Muséum National d'Histoire Naturelle.
C'est des méthodes électrophysiologiques, c'est-à-dire qu'on met comme des petites épingles, mais très 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 fines, hein, qui détectent les signaux électriques. Et à partir du moment où, par exemple, on pince le bras d'un poulpe, eh ben on voit que le signal électrique, il augmente. Ça veut dire qu'il y a une réaction. Le homard, c'est un peu le même principe, hein. C'est-à-dire qu'on va mettre ces petites électrodes. Alors tout de suite, ça fait horrible, mais c'est des petites choses qui sont très très fines, hein, qui permettent de voir le signal dans les nerfs, dans des ganglions ou à proximité d'un ganglion.
Et Jonathan Burge donne un exemple bien connu.
Un crabe ou un homard jeté dans l'eau bouillante va continuer de vivre pendant 2 à 3 minutes. Et il va y avoir une tempête d'activité du système nerveux, comme il y aurait avec n'importe quel autre animal qu'on jetterait dans une casserole bouillante. C'est vraiment du bon sens que ça va leur faire mal, et on a de quoi le prouver.
Sauf que non, dit Bernard Calvino, professeur honoraire en neurosciences, spécialiste de la douleur.
Ça, c'est pour émouvoir le grand public et dire « Ah là là, vous allez faire souffrir vos homards en les plongeant dans l'eau bouillante ». Eh bien non, je ne suis pas d'accord avec cette utilisation abusive qui est faite de cette affectivité en utilisant le mot « douleur ». Non.
Parce que la douleur a un sens et une définition officielle et scientifique que voici.
Une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle.
La douleur, c'est une sensation, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la psychologie et les physiologistes, eux, travaillent essentiellement sur la fonction sensorielle et la manière dont elle est traitée par le système nerveux central. La question, elle est de savoir quand peut-on effectuer ce lien entre nociception et douleur dans l'échelle animale. C'est la capacité qu'a un animal de pouvoir intégrer une dimension émotive à une information nociceptive. Et pour ça, il faut avoir les structures cérébrales ad hoc.
Que n'ont pas les crustacés, d'après Bernard Calvino, hein, auteur aussi cette année de Physiologie moléculaire de la douleur aux éditions Douin.
Pour moi, c'est net, oui, absolument. Je veux dire par là que les homards n'ont pas une céphalisation qui leur permette d'interpréter ce lien entre réponse nociceptive et réponse motrice. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis que non. Le mot douleur est totalement inadapté et n'a pas de sens concernant les crustacés. Et deux, faire un parallèle anthropomorphique, c'est vraiment de la manipulation intellectuelle qui n'a pas de support scientifique.
Le problème est donc, selon lui, la confusion qu'on ferait entre douleur et nociception, la réaction du système nerveux sans lien avec le cerveau, pour les crustacés en tout cas. Il est plus mesuré au sujet des céphalopodes qui, comme leur nom l'indique, ont un encéphale. Jonathan Burge n'est pas étonné en tout cas que le sujet fasse débat, il en est même content.
On espère que ça va lancer une discussion plus large à laquelle devront absolument participer le public, les scientifiques et les pêcheurs et poissonniers. Une discussion pour savoir ce que ça signifierait de considérer ces animaux comme sentients et ce que ça signifierait de les traiter humainement.
En attendant, si vous tenez vraiment à votre plateau de fruits de mer, évitez bien sûr d'arracher les pattes des crustacés quand ils sont vivants. Et si, contrairement à la Suisse ou la Nouvelle-Zélande qui ont interdit la pratique, le courbouillon vous tient à cœur, petit conseil de Laure Bonneau-Ponticelli.
Les mettre au frigo, hein. Les mettre au frigo, ça permet de les anesthésier. Faut pas les laisser non plus trop longtemps parce qu'après ils meurent forcément, hein, d'hypothermie. Mais une fois qu'ils sont anesthésiés par le froid à 4 degrés, on les met dans la casserole et dans ce cas-là, ils ne ressentent pas de souffrance. Ça a été montré depuis plusieurs années. Il y a l'alcool aussi, il y a l'alcool. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi, c'est que vous pouvez les mettre dans de l'eau avec 10% d'alcool, par exemple.
Alcool qui va les anesthésier aussi. Pour les poulpes, avis aux pêcheurs, rien ne sert de les tambouriner pour les assouplir. Ils sont tendres par nature et cela dans tous les sens du terme.
Et c'est Camille Passauvert à réécouter, bien sûr, sur la page de la Terre au carré.
François Sarano, je vous ai vu bondir pendant le sujet quand on écoutait notamment Bernard Calvino.
Oui, je pense d'abord qu'il ne faut pas confondre douleur qui est liée à une altération physique et souffrance, parce que là, il y a souvent confusion des deux mots, et la souffrance est psychologique, et elle peut y avoir souffrance sans douleur d'ailleurs. Et souvent, on utilise les deux mots. Et là, je suis d'accord, je ne pense pas qu'ils souffrent. Mais la douleur, c'est sûr. Tous les animaux ont des sens pour percevoir leur environnement et ils réagissent à cet environnement. Et heureusement qu'ils sentent la douleur, parce que sinon, ils resteraient au contact du stimuli qui lui font mal. Mais ce qui me fait hurler, c'est que peu importe qu'ils aient mal ou qu'ils n'aient pas mal, Ce qui fait que nous, nous sommes différents de tous les animaux, c'est que nous avons conscience de ce que nous infligeons aux autres. Et cette conscience-là nous donne la responsabilité de les respecter le plus possible. Et c'est ce respect des autres, quel qu'il soit, qui fait que nous sommes différents. C'est notre humanisme que nous détruisons lorsque nous agressons pour rien, lorsque nous mutilons pour rien, même des animaux qui n'ont pas de souffrance. C'est à ça qu'on juge que nous sommes différents.
Donc pas de homard pour vous.
Oui, j'ai posé la question.
Non,
ouais.
Pas de homard pour
ni
moi.
De crevettes,
et attendez, quand des amis marins pêcheurs m'offrent du poisson, je le mange avec plaisir, parce que je sais ce qu'ils ont enduré pour aller pêcher ce poisson. Et je considère que c'est un formidable présent, mais c'est un présent. Et je mesure parfaitement ce que ça représente. Il faut prêter considération, attention à toutes les créatures vivantes qui sont autour de nous et qui sont toutes singulières. Toutes leur identité génétique et leur personnalité qui se construit sur leurs expériences propres. Il n'y a dans ce monde que des singularités auxquelles nous devons prêter égard.
Jean-Michel Cousseau, est-ce qu'il y aura du homard pour le réveillon de Noël chez vous ou pas ?
Absolument pas. Je ne touche pas le homard. Il y a plein d'espèces que je ne touche plus aujourd'hui parce que je sais qu'on en prend plus que la nature peut les produire. Car il ne faut pas oublier qu'on rajoute 100 millions d'individus sur la planète tous les ans.
Et les poulpes non plus, alors Jean-Michel Cousteau, que les poulpes que vous pêchiez enfant non plus, pas à votre table ?
Alors, je ne touche plus du tout et je recommande à qui que ce soit de ne pas y toucher.
Allez, on se retrouve dans un instant suite de notre discussion avec Jean-Michel Cousteau et François Sarano.
Yeah.
Animal Triste, Tell Me How Bad I Am.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard, sur France Inter.
Un jour, un enfant qui découvrait la mer m'a demandé « L'océan, c'est quoi l'océan ?»
Je sais, sur la mer, depuis Cousteau, s'il y a eu des films qui ont été plus intéressants et plus révolutionnaires les uns que les autres. Cousteau, c'est le premier qui nous a entraînés sous la surface. Et on veut que le spectateur, le citoyen, on s'adresse aux citoyens, soit bluffé par l'énergie de la vie. Pas bluffé par nos images, mais l'énergie de la vie. Ah, c'est ça une dauphin, ah, c'est ça une baleine. Et de suivre toute allure à travers les océans, sous la surface, en dessous, ces poissons qui se dépassent les uns les autres, et on est au milieu, on a le vertige. Et d'un seul coup, on n'est plus le spectateur immobile qui regardant défiler des hordes sauvages, on est dans ces hordes. Donc c'est une perception qui fait qu'on relate l'existence de ces animaux complètement autrement que ce que l'on a traditionnellement l'habitude de voir.
La voix du réalisateur Jacques Perrin sur une vidéo du site Femme Actuelle en 2010, au moment de la sortie d'Océan. Et François Sarnaud, évidemment, il y a un écho tout à fait particulier pour vous, hein, parce que vous avez travaillé beaucoup avec Jacques Perrin.
Oui, Jacques me fait voir l'océan complètement autrement. Le scientifique le voit sous forme de statistiques, de chiffres, 360 millions de kilomètres carrés, 240 000 espèces, et en définitive, ça ne dit pas grand-chose de l'océan. Et tout d'un coup, lorsque on voit une baleine qui danse, la grâce de ses bras qui s'étendent sous le ciel de l'océan, là, on comprend ce que c'est que la mer. La mer, c'est la tempête. La mer, comme dit Jacques, c'est une énergie formidable. La mer, c'est sensuel. Et nous oublions que nous ne sommes pas que des intellectuels, que nous sommes aussi des animaux à cinq sens, plus un, l'intuition, la perception de l'autre. Tout ça, c'est des choses qui font le vivant et qui nous relient aux autres. Et donc, le film de Jacques, c'était d'être poisson parmi les poissons pour que les spectateurs n'apprennent pas des choses, ne sachent pas des choses, mais vivent des choses, ou au moins aient envie de les vivre, vivre avec les autres.
Jean-Michel Cousteau, dans votre livre, vous parlez de l'engagement, évidemment, écologique de votre père, et vous rappelez quand même que l'équipage, par exemple, de la Calypso, au départ des tournages, n'était pas franchement écolo. Hein.
Mais non, il faut quand même se mettre dans l'époque où on ne savait rien. On apprenait tout, tous les jours, sans arrêt. Et les erreurs que je faisais, moi, quand j'étais gamin, aujourd'hui, j'irais en prison si je continuais.
Lesquelles
donc, mais non, mais je vous ai parlé de des poulpes que j'attrapais quand j'étais gamin, parce que je voulais les vendre pour aller m'acheter des bonbons. Et mon meilleur client, c'était le chef de police. Vous pensez qu'aujourd'hui, on ferait ça? Non. On a beaucoup appris depuis nos erreurs. Et grâce à la nature, on a beaucoup découvert ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut faire pour protéger ce dont nous dépendons.
Jean-Michel Cousteau, pardon, je vous ai interrompu. Je voudrais quand même du coup vous poser une question par rapport à des choses que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez notamment du fait que vous étiez aux Maldives il y a 3 semaines. Vous parliez d'avion aussi un moment. Est-ce que vous avez par exemple réduit vos déplacements en avion? Et vous parliez aussi beaucoup de la technologie pour réussir à peut-être résoudre un petit peu les choses. Est-ce que pour vous, c'est la technologie qui va nous sortir, sortir la planète de là?
La technologie va nous permettre de résoudre énormément de problèmes. Et je suis convaincu, sinon, il y a longtemps que j'aurais arrêté de faire ce que je fais. Le déplacement dans l'avion, je fais très attention de n'en faire que quand c'est absolument nécessaire. Et je sais que, par ailleurs, il y a énormément d'industries et d'industriels qui sont en train de trouver des solutions pour que les avions soient beaucoup plus efficaces, mais aussi les voitures et nos consommations, etc.
François Sarnaud, est-ce que vous êtes aussi technophile que Jean-Michel Cousteau, qui fait beaucoup confiance à la technologie pour nous sauver?
Alors, moi qui ne suis pas quelqu'un qui soit très dans la technologie, je crois beaucoup d'abord à la conversion, au contact du vivant, au contact de la nature. Cousteau en est un bon exemple, Jean-Michel en est un bon exemple, j'en suis un bon exemple, j'étais un pirate, mais la nature nous a botté les fesses. Elle nous a complètement retourné. Je crois à cette conversion, je crois à la contagion. Et je crois surtout au fait que nous ne changerons pas nos comportements si nous ne savons pas pour qui nous le faisons et pourquoi nous le faisons. Pour qui ? Pour nos enfants, pour les gens qui sont autour. Il faut prêter attention aux autres. La première chose, je crois que on ne change que si tout d'un coup on considère les autres. Tous les autres, toutes les créatures vivantes. Et que le matin, on se dise pour qui je vais faire quelque chose. Voilà. Devant moi, j'ai cet arbre. C'est une créature vivante. Je le considère pas comme un frère. Ne croyez pas que je sois complètement illuminé. Mais je prête attention à elle. Elle existe. Et je donne existence à tous ceux qui sont là. À ce moment-là, lorsque j'ai donné existence et considération, je sais que je vais éviter de faire quelque chose qui peut altérer leur vie. C'est facile d'effacer la vie. C'est ultra facile. Donc, quand j'ai pris conscience de tout ça, alors je suis mieux à même de savoir pourquoi je n'utilise plus de sac en plastique, pourquoi je ne prends pas ma voiture, pourquoi je vais à vélo. Il y a un ordre. On ne change pas si on ne sait pas pour qui ou pourquoi. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas nommer les oiseaux, ne savent même pas nommer les poissons. Quand j'étais gamin, il y avait des chardonnerets, il y avait des fauvettes, il y avait des rouges-gorges. Aujourd'hui, il y a à peine oiseaux. La nature est devenue un décor pour nos loisirs et un peu ensoleillée. Elle n'existe plus. Donc pourquoi est-ce qu'on ferait un effort pour elle ? Il faut revivre dans la nature, il faut se reconnecter à la nature.
Vous dites que c'est la nature qui nous botte les fesses, mais aujourd'hui c'est aussi la nouvelle génération qui nous botte les fesses dans nos comportements et avec justement des initiatives plus radicales.
Merci la nouvelle génération. Nous avons nous aussi essayé de faire effort et vous nous donnez un nouvel élan. Mais oui, c'est la nouvelle génération parce que elle est prise dans un tourbillon qui est plus fort que celui que nous avons connu. Hein, nous sommes partis dans un monde où on pêchait 20 millions de tonnes de poissons par an. On en a pêché 90 millions de tonnes. Maintenant, c'est la dégringolade. La pollution est partout. Les communications sont planétaires. Les voitures sont partout. Le monde a beaucoup changé en 60 ans. Et donc, oui, aujourd'hui, c'est une sorte d'explosion nucléaire double. La dégradation et en même temps la prise de conscience. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les initiatives qui touchent là et là la mer et qui permettent le retour de la vie, que ce soit les réserves marines, montrent systématiquement leur succès. La protection des cétacés, quand on était sur la Calypso, on ne pouvait pas plonger avec les baleines et les cachalots, parce qu'il n'y en avait plus, les rescapés du grand massacre nous fuyaient. Aujourd'hui, on peut le faire. Ça veut dire que dès qu'on prend une mesure, on gagne à tous les coups. La nature est résiliente, elle va pouvoir revenir. C'est ça qu'il faut dire, ça voilà peine de se battre. Battons-nous. On aura une mer plus riche que celle que nous connaissons aujourd'hui.
Voilà, François Sarano, un vrai combattant en tout cas. Et Jean-Michel Cousteau, il y a des exemples en tout cas sur Terre, effectivement, où la diversité biologique et les poissons reviennent. On en parlera dans un instant avec vous. Parce que du côté de la Californie et du Mexique, eh bien, il y a aussi des lieux qui peuvent nous redonner un peu d'espoir. Ça s'appelle Sauvons nos océans. C'est aux éditions de l'Archipel et on en reparle dans un instant.
Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Doesn't care if it's 10 below, you're sitting by the fire. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the storm. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, And I brought lots of corn for popping. The lights are way down low. So let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Frank Sinatra, Let It Snow et Thierry Dupin, bien sûr, pour la programmation musicale de Noël de l'émission.
France Inter, la Terre au carré.
Et cette quantité de cette gaz carbonique se propage dans l'atmosphère.
Dans l'atmosphère et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre.
C'est un baratin, ça. Il y a l'histoire du CO2, ben, c'est entendu, c'est vrai, on en fabrique beaucoup, mais il y a quand même des correcteurs automatiques. Il y a d'abord la végétation qui détruit la forêt. Il y a donc d'abord la végétation qui est un correcteur naturel à ça, et ensuite il y a l'océan. Bon, alors il est certain que nous menaçons simultanément les forêts et la surface de l'océan, qui est la surface d'échange. Bon, alors, mais si on avait la sagesse de planter des arbres en même temps qu'on brûle du pétrole...
Oui, mais on ne peut pas planter des arbres dans l'Antarctique.
Non, mais on peut en planter n'importe où.
Mais il n'y a pas besoin que ce soit dans l'Antarctique.
Bien sûr.
Voilà, discussion nourrie autour du réchauffement climatique. Bah, c'était en 1979. Haroun Taziev, le volcanologue, et le commandant Cousteau. Vous en souvenez, Jean-Michel Cousteau, ou pas de ce passage au dossier de l'écran ?
Très, très bien.
Quel souvenir vous en gardez ?
Eh oui, j'en garde un souvenir. C'est une époque importante. Et on a vécu des moments absolument dramatiques et quelquefois extraordinaires. Mmh. Et on a beaucoup appris, mais on a beaucoup plus à apprendre aujourd'hui de la nature et de savoir comment et à quel point on en dépend et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'organiser. Et quand j'entends parler de la déforestation, moi j'ai passé 2 ans en Amazonie, de voir la destruction de l'Amazonie encore aujourd'hui avec le président du Brésil, etc. Il y a des efforts à faire car il y a des centaines de milliers d'individus qui vivent en Amazonie, qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas de propriété. Ils sont traités comme des cauchemars et des... Et c'est épouvantable.
Pour terminer cette émission, Jean-Michel Cousteau, j'aimerais juste dire un mot d'un lieu que vous décrivez dans votre livre où l'abondance de vie est revenue alors qu'il avait été décimé par la surpêche. C'est la mer de Cortés entre la Basse-Californie et le Mexique. En un mot, c'est vraiment un exemple pour redonner de l'espoir justement sur ce qu'on est capable de faire et sur la résilience aussi de ces écosystèmes.
C'est exactement ces exemples qui nous permettent de continuer à faire passer l'information à d'autres gens qui ont peut-être des questions ou des doutes, et d'un seul coup, eh bien, ils veulent faire une différence. N'oubliez pas quand même que d'arriver à partir et à s'asseoir avec des présidents de pays différents, comme je l'ai fait avec le président W. Bush, qui nous a permis de lui montrer un film que mon père voulait faire, il n'a pas pu le faire, je l'ai fait après, et je lui ai montré le film, il m'a invité à la Maison Blanche à Washington, pour montrer le film à 50 personnes. Et à la fin, il m'a invité, on a déjeuné ensemble, et il m'a dit « Let's get it done ». Et il a créé la zone protégée des océans qui fait 1200 milles de long et qui était la zone la plus grande protégée à l'époque. Et le président Obama, il a multiplié ce qu'a fait le président Bush par 4. Et c'est la plus grande zone protégée sur la planète aujourd'hui.
François Sarano, est-ce qu'on peut déposer un peu d'espoir au pied du sapin, juste avant de se quitter quand même, pour nous réconcilier
D'abord, l'océan est extrêmement résilient. Encore une fois, chaque fois qu'on prend des bonnes mesures, ça marche à tous les coups. Donc ça vaut la peine de se battre. Et encore une fois, réfléchissons pour qui on le fait. On aime nos enfants, on aime nos petits-enfants, on a envie que ce monde soit paisible. Alors avançons, sans trop se poser de questions. Nous avons conscience de tout ça. Nous ne pouvons pas renoncer. On n'a pas le choix. en avant.
Allez,
super.
Eh ben, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Joyeux Noël, en tout cas, à tous les deux. Merci, Jean-Michel Cousteau. Bon Noël à vous, donc, à Santa Barbara, en Californie, où vous étiez. Et puis, François Sarano, on renvoie sur ce livre, Réconcilier les hommes avec la vie sauvage, c'est chez Actes Sud. Et Jean-Michel Cousteau, Sauvons nos océans, aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup, bon Noël.
Merci beaucoup. Merci.